Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une publication, c'est une revue qui s'appelle Sans Transition et qui est sous-titrée La Revue des citoyens, citoyennes. Alors, c'est presque de la nouvelle orthographe, engagée, puisqu'il y a donc le masculin, le féminin et le pluriel. Voilà. Alors, c'est un magazine bimestriel qui donc, inclut dans son sommaire donc, des sujets d'ordre général et puis un cahier spécial consacré à l'Occitanie, donc avec une incidence purement occitane. Et pour nous présenter, nous expliquer un peu cette revue, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir M. Delotte, qui est donc journaliste et qui écrit dans cette revue et qui est un petit peu responsable de la partie Occitanie, un petit peu.
Oui, bonjour. Responsable, non, c'est un petit peu fort. Nous, on est une société coopérative et donc les décisions sont prises voilà, collectivement. Mais il est vrai que voilà, je suis le seul salarié de cette société coopérative à être présent sur le territoire en permanence, voilà, puisque j'habite ici. D'ailleurs, j'ai un bureau au pôle Réalis, hein, qui est l'incubateur d'entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région Occitanie. Et voilà, oui, je suis journaliste associé. Aussi, on va dire, à la rédaction.
Alors, vous nous dites que c'est une SCOP, donc
oui.
C'est fait la grosse différence avec la plupart des organes de presse qui sont plus souvent des SA,
oui.
Et possédés par deux ou trois gros propriétaires, on va dire, pour être simple, et qui est appuyé sur trois régions.
Tout à fait, oui.
Alors, la Bretagne, Occitanie et Provence.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Comment ça s'est... quelle est la genèse de ce montage ?
Alors, oui, alors pour remonter à l'histoire du média, le média, à l'origine, est né en Bretagne, hein, à la fin des années 2000. Au départ, sur Internet, c'était un média qui s'appelait Bretagne Durable, qui était consacré à l'actualité, on va dire, de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours, hein, le développement durable et solidaire dans la région. Puis c'est devenu un magazine papier qui s'appelait Bretagne Durable, qui était trimestriel. Et ensuite, en fait, la rédaction de ce média a souhaité lancer une nouvelle édition en Provence, puisque voilà, une partie de l'équipe était originaire de cette région. Donc voilà, moi j'ai rejoint l'équipe, enfin j'ai suivi le projet à peu près depuis le début et ensuite j'ai rejoint l'équipe en tant que salarié au lancement de Provence Durable, donc l'édition provençale. Et puis il y a environ un an et demi maintenant, nous avons lancé une nouvelle édition en Occitanie et à cette occasion on a décidé de changer le nom de l'ensemble des éditions. Donc le nom est devenu Sans Transition, Bretagne, Provence et Occitanie, avec 50% du contenu qui est consacré à des sujets nationaux, on va dire, hein, des enquêtes, des dossiers de fond, hein, sur les enjeux aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire et de l'écologie en France ou même de façon globale. Et puis l'autre moitié qui est consacrée à des projets qui sont portés par des citoyens, des collectivités, des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire en région, donc voilà, qui proposent des perspectives
des
de changement,
voilà.
Des solutions, hein, concrètes sur les territoires.
Alors, ce qui permet d'éclairer le titre d'ailleurs, parce qu'on nous bassine à longueur de temps dans les médias de la transition, avec la transition écologique,
oui.
Et vous, au moins, vous affirmez, sans transition, on y va tout de suite.
Sans transition, on y va, oui, oui. c'est ça en fait, hein, c'était l'idée de ce titre un peu punchy, un jeu de mots. Et puis le sous-titre, c'est sans transition, donc en chiffres, hein, en Occitanie, en l'occurrence ici, voilà, qui m'ont montré un petit peu le foisonnement d'initiatives. Qui
voilà,
existe
sans initiative, voilà. Qui éclaire donc ce parti pris. Alors je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que on pourrait penser que c'est qu'un journal écologique, c'est pas tout à fait, ou écologiste, c'est pas tout à fait ça. Il y a aussi des informations, notamment à travers le grand entretien, puisqu'il y a un grand entretien dans chacun des numéros, vous touchez à des domaines qui sont pas pas immédiatement de l'ordre de l'écologie.
Non, pas immédiatement. On va dire que de façon générale, on s'intéresse à tout ce qui fait aujourd'hui le progrès, tout ce qui nous amène à imaginer, à penser une société voilà, plus soutenable, solidaire et effectivement qui prend en compte l'écologie, mais pas uniquement, mais en prenant en considération le fait qu'aujourd'hui, tous ces enjeux économiques, sociaux et écologistes sont liés de toute façon et qu'il faut les appréhender de façon globale, et ce que fait d'ailleurs très bien de façon pertinente l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans ce champ de façon tout à fait claire.
Alors, c'est une petite incidente, mais l'éditorial de ce numéro qui vient de sortir, le numéro 8, est bilingue.
Oui, tout à fait. Alors... Il est bilingue, d'ailleurs, dans nos trois régions, parce qu'on a fait le choix de s'inscrire dans les territoires et de considérer l'enjeu de la diversité culturelle comme étant quelque chose d'important, sa préservation, notamment. Et du coup, effectivement, l'édito est traduit en occitan et en breton, en Bretagne. Alors, en occitan provençal, en Provence, en occitan languedocien, ici, en Occitanie, sachant que bon, il y a quelques variantes qui ne sont pas forcément extrêmement importantes, mais je ne suis pas spécialiste de la question.
Qui sont surtout graphiques. Oui. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas l'occitan de la même façon de ce côté-ci du Rhône par rapport à l'autre côté.
Oui.
Voilà. Et donc, ça, quelquefois, il y a des petites différences de prononciation, mais les mots sont grosso modo les mêmes.
D'accord.
Alors, dans ce numéro 8 de Sans Transition, donc, il y a un grand entretien avec une personnalité indienne... Vandana Shiva, qui s'attaque au... D'ailleurs, c'est relevé dans le titre de l'entretien, qui s'attaque à du lourd. Monsanto, Bayer, Syngenta, et ça. Qui explique que son pays ne... Alors ça, c'est extraordinaire, que son pays ne produit plus, ou presque plus, en matière agricole. C'est étonnant.
Oui, enfin, ou tout du moins, effectivement, il y a une confiscation du, peut-être, enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais du vivant et effectivement de tout ce que, des semences, par des très grandes entreprises multinationales que vous avez citées, et donc du coup, ce qui va provoquer le fait que la disparition aussi d'une agriculture traditionnelle et nourricière et le fait que les agriculteurs qui demeurent vont être tombés sous la dépendance de ces entreprises. Mais ce qui est le cas en Inde et ce qui est le cas malheureusement aussi en France et dans nos régions de façon globale. Effectivement, Vandana Shiva, c'est une personne qui au niveau international porte... Ce combat, il est extrêmement important et il a une résonance aussi bien internationale, mondiale que locale. C'est pour ça qu'on a choisi de lui donner la parole.
Alors, ces personnalités, souvent, sont interviewées dans un cadre d'opération de contact avec des publics. Vous aviez... apparemment, ça n'a pas eu lieu, mais ici, vous aviez imaginé faire une rencontre avec Paul Jorion, qui est tout à fait importante.
Oui, tout à fait, oui, qui est un économiste, justement, qui amène à penser autrement l'économie, en ayant un regard très critique sur l'économie dominante. Alors, on avait organisé cette conférence. Malheureusement, M. Jorion a été victime d'un malaise. Bon, il va bien, mais il n'a pas pu assurer, malheureusement, cette conférence. Mais ça n'est que partie remise, puisque...
C'est de reporter l'année prochaine.
Il est prévu, de reporter cette conférence l'année prochaine à Montpellier, avec aussi une conférence qui sera organisée avec lui à Toulouse aussi, donc dans les deux capitales régionales.
Des deux capitales régionales, il n'y en a qu'une.
Oui, je fais exprès. J'ai exprès de le dire.
Alors, précisément, hier, je me rendais, je parcourais la région pour me rendre dans une réunion et je constatais un nombre important maintenant d'éoliennes. Et précisément, en ouvrant votre revue, je vois qu'il y a un papier consacré aux éoliennes.
Oui.
Avec ça, elles posent vraiment un problème, ces éoliennes. Et j'ai l'impression que ça divise un peu les gens qui sont partisans de cette fameuse transition,
oui.
Entre ceux qui disent « non, 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 ça défigure le paysage » et ceux qui disent « bah oui, non, mais d'accord, mais enfin, il faut trouver une solution ».
Ah oui, alors tout à fait, ça, c'est une enquête qu'on a consacrée justement à l'éolien dans la région, à Occitanie. Alors vous faites bien de citer cet exemple voilà, du trajet entre Montpellier et Toulouse, parce que justement, on passe, quand on se rend à Toulouse, depuis Montpellier, dans le secteur de la région où il y a eu la plus forte concentration en éolienne. Mmh. Alors il ne s'agit pas de dire pour nous que l'éolien c'est pas bien, au contraire c'est quelque chose de tout à fait souhaitable puisqu'aujourd'hui on sait qu'il faut opérer cette transition énergétique dont on parle beaucoup, mais pas la faire n'importe comment, mais surtout bon, il s'agissait de mieux comprendre les enjeux aujourd'hui et aussi de comprendre pourquoi légitimement il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus que irrités d'ailleurs par la présence d'éoliennes autour de chez eux, près de chez eux, puisque dans ce secteur de la région notamment entre l'Aude, l'Hérault, il y a une très très forte concentration d'éoliennes parce qu'il y a un gisement de vent qui est très, très important, et ça peut provoquer des problèmes d'ordre. On parle de problèmes de santé, mais bon, qui ne sont pas aujourd'hui totalement avérés, mais qui peuvent être pénibles, puisqu'on sait qu'il y a des infrasons qui sont provoqués par les éoliennes. Vous l'évoquiez effectivement, la défiguration du paysage, bon, ça on l'apprécie ou non, selon que il y a des gens qui trouvent ça très beau, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, sur certains endroits, il y a une très très forte concentration d'éoliennes qui modifie le paysage, et puis il y a des impacts sur la biodiversité, notamment le fait qu'un certain nombre d'espèces emblématiques peuvent être impactées par ces éoliennes, des espèces qui sont menacées déjà, rares, on a parlé de l'aigle royal, des faucons cresserellettes. Alors là, on a interviewé justement l'association France Nature Environnement, qui est pro-transition énergétique et éolien, mais qui sur certains sujets, sur certains projets, est contre l'installation d'éoliennes dans certaines zones, on va dire, qui ont pu causer la mort de certaines espèces protégées. Alors, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on fait ces projets, quelle envergure, parce qu'il y a des projets qui sont extrêmement importants, avec quel impact et avec quelle concertation aussi, avec la population. Aujourd'hui, c'est toutes ces questions qui se posent et vous pourrez en savoir plus en lisant cette enquête.
voilà. On a un peu l'impression quand même que tout le monde est d'accord, mais chez les autres.
Il y a souvent...
pas trop chez soi, quoi.
C'est vrai, il y a un peu cette dimension-là.
Voilà. Alors, il y a un très grand dossier que j'ai beaucoup apprécié sur l'intérêt général.
Oui.
Parce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment une préoccupation des médias ni même des gouvernements. Et c'est bien dommage. Et j'en ai retiré, au fond, en étant un peu schématique, c'est qu'il y aurait deux grands secteurs en matière économique. Il y a l'économie capitalistique et puis il y a l'économie sociale et solidaire. Vous avez pris position, franchement, pour la deuxième solution.
Oui, et puis bon, c'est cohérent avec ce qu'on est et ce qu'on porte. Effectivement, aujourd'hui, si on veut aller vers une économie plus humaine, plus respectueuse de l'environnement et des personnes, il faut certainement... pensons en tout cas soutenir l'économie sociale et solidaire, qui est une économie qui ne place pas les profits comme objectif principal de son bien fondé, de son existence, mais plutôt le fait de pouvoir répondre à des besoins d'intérêts généraux. Alors, ce qui pose question aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est posé comme question aussi dans l'enquête, puisqu'aujourd'hui, les services publics qui sont portés par les collectivités ou par l'État ont tendance à souffrir parfois de baisses de budget. Et il est vrai que les pouvoirs publics vont parfois faire appel à justement des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour assurer des services qui ne l'étaient plus. Ils ne le sont plus ou moins par les pouvoirs publics. Alors ça peut poser la question des moyens, de la qualité des services. Est-ce qu'on donne suffisamment de moyens à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire pour assurer ces services publics? Est-ce que c'est toujours leur mission aussi? C'est en arrière-fond, en arrière-plan, tous ces sujets qui sont là. Et puis est-ce que du coup l'intérêt général va devenir un business aussi peut-être ça pose aussi ces questions-là, il ne faut pas les occulter.
Ce n'est pas un univers exempt de scories, quoi.
Non, 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 faire, non, non, non. Évidemment, parce que de toute façon, ça reste quand même une économie qui est insérée dans l'économie de marché, l'économie sociale et solidaire. Et donc, et forcément, il peut y avoir des dérives qui sont liées à l'économie de marché. Et donc, il faut toujours replacer au centre ce qu'elle est, certainement rappeler ses fondamentaux et ses valeurs, effectivement, qui est toujours de replacer au cœur de l'économie l'humain. Voilà, hein, c'est ça.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette économie-là, c'est une économie d'emploi et de main-d'œuvre.
Oui, et souvent des emplois qui sont non délocalisables, qui répondent à des besoins de territoire. Et donc, c'est pour ça que nous, on estime que c'est une économie d'avenir qui existe depuis très longtemps, mais dans laquelle il y a par ailleurs beaucoup d'innovations, ce qu'on appelle l'innovation sociale. Hein, c'est-à-dire répondre par des projets nouveaux à des besoins d'intérêts généraux, à des enjeux qui sont extrêmement importants aujourd'hui, hein, le vieillissement de la population, la prise en compte de la biodiversité, l'insertion, puisqu'on est quand même encore aujourd'hui dans une période où le chômage est important, notamment dans nos régions. Hein. Donc l'économie sociale et solidaire a des réponses à apporter à tous ces enjeux-là.
Alors je relèverai un point qui est un peu polémique, mais qui est intéressant à cet égard, c'est que au fond l'économie sociale et solidaire peut fournir des solutions, y compris face à Uber, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société.
Tout à fait.
Ça c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant.
La SCOP contre l'employeur, l'auto-entrepreneur. Quoi.
Alors et effectivement, elle permet l'économie sociale et solidaire dans certains cas et par l'intermédiaire du fait qu'elle a produit aujourd'hui des statuts juridiques qui permettent d'offrir une sorte de protection, hein, une protection sociale aux travailleurs indépendants notamment. Alors je pense notamment à ce qu'on appelle les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont des coopératives, en gros pour faire simple, de travailleurs indépendants qui sont employés par la coopérative, donc ont une fiche de paye, de salaire, et donc du coup qui cotisent qui cotisent aux différentes caisses, et contrairement aux travailleurs, même si les travailleurs indépendants cotisent d'une certaine manière, mais qui bénéficient moins de protection sociale, que ce type de personnes qui peuvent être employées par cet intermédiaire-là. Ce qu'on appelle l'ubérisation. Hein. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle apporte des réponses face à ça, face au fait que il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui indépendants. C'est un état de fait. Comment est-ce qu'on répond à cet état de fait en termes de protection sociale, notamment, hein, et de coopération, puisque ce sont des gens du coup qui sont amenés à coopérer, souvent à travailler dans les mêmes locaux, à répondre à des marchés ensemble. Ça crée aussi des liens et de la coopération, et ça permet d'assouplir, non pas de faire disparaître la concurrence, mais certainement à un moment donné de la rendre moins brutale, moins violente, et de provoquer, de créer des coopérations et du faire ensemble quand c'est possible.
Nous avions nous-mêmes reçu un livreur à vélo qui, étant licencié par un de ses organisateurs qui emploie des auto-entrepreneurs, et qui, ayant été licencié, a monté une SCOP avec un certain nombre de camarades qui étaient eux-mêmes livreurs. Et donc, on voit par là que il n'y a pas qu'une seule solution juridique.
Non.
Il y en a d'autres.
Oui, tout à fait. Oui, la coopérative peut en être une, effectivement. On peut se rassembler. Oui, tout à fait.
Et voilà. Alors, il y a évidemment, il y a beaucoup d'autres choses que l'on pourrait évoquer, mais on n'a pas trop le temps de s'attarder. C'est bien dommage, mais on ne peut pas non plus tout dire, parce que sinon, il n'y aurait plus de raison de lire la revue. Il y a un papier très intéressant sur les perturbateurs endocriniens, avec l'avis d'un spécialiste qui est à Montpellier. Donc, on exploite aussi le
effectivement, oui, c'est vrai. Qui est un spécialiste de renom international.
Savoir-faire, voilà. Et puis, il y a un certain nombre de renseignements avec des références bibliographiques. On va vers des livres, etc. Et puis, il y a également un site qui sert un peu de liant à chacun des numéros, ce qui permet de suivre un peu l'actualité de la revue.
Tout à fait.
C'est donc, il y a une véritable, un éventail de possibilités pour le lecteur. Et on peut évidemment s'abonner, ce qui serait une très bonne chose.
Pour nous, ce serait une très bonne chose, effectivement.
Parce que, voilà, vous êtes diffusé en kiosque, mais c'est, je suppose que ce n'est pas l'essentiel de votre...
Alors,
impact,
non, c'est pas par l'intermédiaire des kiosques qu'on touche la majeure partie de notre lectorat, mais effectivement, vous pouvez nous trouver en kiosque, pas dans tous les kiosques. Vous allez sur notre site, vous pourrez voir, en fait, via une carte, les kiosques dans lesquels nous trouvons, dans lesquels on est diffusé. Mais on est diffusé aussi et surtout en magasin, en point de vente dit alternatif, donc en épicerie bio, magasin bio, certaines librairies. Voilà, du coup, vous retrouverez sur la carte. Sur notre site internet, les différents points de vente près de chez vous, il y en a pas mal. Hein, en fait,
Il y en a beaucoup, oui, je me suis rendu compte.
Oui. Et donc, on remercie effectivement nos diffuseurs, voilà, sans qui on ne pourrait pas exister. Donc voilà, mais vous pouvez aussi vous abonner en ligne.
Voilà, c'est l'idéal, ça.
C'est l'idéal, oui, effectivement, c'est sûr.
On reçoit la revue à la maison, donc c'est parfait.
Voilà, on le reçoit à la maison, on peut aussi la consulter, les articles sont consultables en ligne, on peut la télécharger en PDF. Donc voilà, et puis sur notre site, bon, qui est un peu la vitrine de notre magazine papier, puisque ce qu'on propose, c'est surtout un magazine papier, on pourra retrouver aussi quelques articles d'actualité, des interviews sonores, notamment d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, du monde associatif, sur les territoires. Voilà, c'est ce qu'on propose aussi sur notre site. Et puis voilà, on peut se tenir informé aussi des conférences qu'on organise dans les différentes régions, puisqu'on organise aussi des conférences et on les anime voilà, avec des acteurs aujourd'hui de la préservation de l'environnement et de l'économie sociale et solidaire.
Alors, l'abonnement, non, on va parler un petit peu d'argent.
Oui,
on n'a pas l'habitude, mais enfin, quand même, 29 euros, c'est tout à fait...
C'est raisonnable. Tout à fait raisonnable. Enfin, il me semble, en tout cas. Après.
Oui, non.
Mais je sais que ça peut être une somme pour certains.
Ouais. Absolument. Sinon, c'est 5,50 euros par numéro.
Par numéro.
Mais bon, pour être sûr de ne pas rater un numéro, c'est mieux de s'abonner.
Oui.
Et puis, c'est plus sûr pour la revue, surtout.
Oui, tout à fait.
Le prochain numéro paraîtra quand?
Alors, il paraîtra...
Parce que c'est bimestriel, rappelons-le, tous les deux mois.
Oui. Alors, il devrait paraître au tout début du mois de janvier.
Et la couverture?
Alors, la couverture n'est pas encore décidée. Au niveau local, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura un sujet sur le design social. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais en fait, à Nîmes, il y a toute, on va dire, une dynamique qui s'est instaurée autour du design social. Le design social, bon, en quelques mots quand même, c'est comment créer, designer, pas des objets, mais même si les objets peuvent être designés dans ce cadre-là des objets, c'est de designer, créer des politiques publiques, des services publics, voilà, avec les utilisateurs de ces services publics, entre autres. Voilà.
Et ce qui part à contre-pied un peu l'idée qu'on peut avoir classiquement du design, qui est plutôt en direction du luxe. Et là, on
oui, du commerce, c'est justement, voilà, c'est ça. Ouais, et donc voilà, c'est une façon tout à fait intéressante d'envisager le design. Et en fait, c'est quelque chose qui, voilà, il y a des entreprises à Nîmes, parce qu'il y a un master en fait qui forme des jeunes, et certains ont créé leurs agences et ça marche plutôt bien pour eux. Et c'est une façon de, voilà, d'entreprendre et de créer des projets qui, voilà, qui sont tout à fait intéressantes et qui répondent à des objectifs à chaque fois d'intérêt général. Et alors après, on a d'autres sujets. Peut-être je peux vous en parler rapidement. On aura un grand sujet national sur l'aluminium. Alors, on en parle beaucoup au travers des vaccins. On a essayé de faire le point avec des scientifiques dans quelle mesure ça peut être dangereux.
Bon, hein,
voilà, tous ces sujets-là. Parce qu'on en trouve effectivement dans beaucoup de produits.
Oui,
notamment les déodorants, et voilà, on aura un sujet sur le vrac aussi, un grand sujet national sur le vrac. Aujourd'hui, ça devient un petit peu une mode qui se développe. Alors pourquoi consommer en vrac, acheter en vrac, comment faire, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est plus cher? Voilà, un peu pratique aussi. Voilà.
Et des conférences?
Alors des conférences, justement, l'idée c'est d'inviter à nouveau Paul Jorion. Hein, comme le
18 septembre, je crois, c'est ça?
Alors,
parce que j'ai lu sur le site.
C'est ce que vous avez lu sur le site. Alors, en 2018?
Oui.
Oui, bon, ben, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, l'idée, c'est à moyen terme, on va dire, mais il y aura d'autres événements hein, qu'on va organiser au fil de l'année. Pour l'instant, bon, 2018, hein, ça c'est certain. On organise des ciné-débats aussi, enfin on en anime, avec notamment les cinémas du réseau Utopia. Alors ici... on l'a fait à Toulouse, on l'a fait ici à Montpellier, hein, Utopia Sainte-Bernadette. Voilà, je vous invite à aller voir notre site, à aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on met cette actualité sur Facebook notamment régulièrement. Donc, voilà.
Ben, écoutez, nos auditeurs iront sur notre site aussi, puisqu'on mettra tous les liens nécessaires pour pouvoir suivre l'actualité de cette revue, dont je rappelle le titre, « Sans transition, la revue des citoyens, citoyennes engagées, EES ». Et c'est donc, ça paraît tous les 2 mois. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.